le couper après.
Très bien. Alors. Voilà, alors j'enlève le masque, c'est quand même plus facile et plus agréable. De toute façon, grande distance là. Voilà, enfin on y arrive, frères et sœurs. Ça n'était pas simple de trouver une date avec Jean-Louis, mais c'est vraiment une grande joie pour moi de pouvoir vous retrouver. Certains que je connais par visioconférence, que je. Voilà, on s'est peut-être avec certains d'entre vous vus pour le culte en visio l'année dernière, pour Vendredi Saint, pour l'Ascension, et puis certains parmi vous suivent mes études bibliques. Toby, bien sûr, j'ai beaucoup parlé de vous. Voilà, on s'était vu pour le baptême de Toby, mais enfin, on arrive à se retrouver. Et je suis vraiment heureux de pouvoir partager ce moment avec vous ce matin. L'action biblique a été très importante dans mon cheminement, parce que comme beaucoup de jeunes, j'ai fait le camp à Eisenflou, le camp de la jeunesse action biblique, quand j'entrais en seconde, ça fait déjà un moment. Et ça m'a beaucoup marqué, ça m'a beaucoup encouragé. Je crois que c'était vraiment le début où j'ai voulu lire toute la Bible pour moi, enfin, vraiment me nourrir de la parole, même si déjà avant, j'avais quand même vraiment le désir de servir le Seigneur. Et c'était, je dois beaucoup à l'action biblique. Je suis d'autant plus content d'être ici. Donc, je suis le papa de Toby. Je m'appelle donc François Caudwell, comme Toby, c'est étrange. Je suis très reconnaissant pour l'accueil que votre église a accordé à Toby et Larissa. Merci beaucoup qu'ils aient pu trouver en vous des frères et des sœurs en Christ pour vivre leur foi. C'est vraiment une grâce pour eux. Je suis pasteur des églises ménonites de France. Donc, je ne vais pas vous expliquer ce que sont les ménonites, mais c'est la plus ancienne église évangélique issue de la Réforme, si vous voulez, puisque l'origine du mouvement anabaptiste ménonite remonte à 1525. C'est plus vieux que Calvin. Ouais, c'est très très ancien. Mais ici, dans la région, puisque nous habitons à côté de Tournu, à Cuisery, je travaille surtout dans le domaine historique et théologique pour ces églises ménonites et j'apporte un appui pastoral à deux églises évangéliques, celle de Lons-le-Saunier et celle de Louan et Montpont en Bresse. Voilà, pour vous situer un petit peu. Tout à l'heure, nous avons lu un chapitre de l'Épître aux Hébreux. Figurez-vous que l'auteur de l'Épître aux Hébreux n'avait pas une tâche facile, parce qu'il fallait tout réinventer dans l'interprétation de l'Ancien Testament. Pierre, quand il était en prison, les premiers chrétiens de Jérusalem, les premières communautés qui ont été fondées par l'apôtre Paul, n'avaient pas d'autre Bible que l'Ancien Testament. On va l'oublier, cela. Et il fallait qu'ils annoncent Jésus-Christ. Donc, il y avait tout un exercice d'interprétation à faire, de reprendre les textes de l'Ancien Testament pour en faire ressortir, si vous voulez, la bonne nouvelle en Christ. Enfin, et bien sûr, Jésus avait déjà montré la voie, mais ce n'était pas simple. Et l'Épître aux Hébreux nous donne vraiment un exemple extraordinaire, magnifique, de cette nouvelle lecture à la lumière de Jésus. De l'ancienne alliance transformée en nouvelle alliance par le Seigneur Jésus, par sa mort et sa résurrection. Alors nous allons faire un peu cet exercice ce matin, si vous voulez, à notre manière, bien moins bien sûr que dans l'Épître aux Hébreux, mais enfin un petit peu quand même. Je vous invite donc à prendre aussi un texte de l'Ancien Testament, dans le livre de l'Exode, au chapitre 34, les versets 4 à 9. Exode 34, 4 à 9. Alors, nous sommes dans une période dramatique, période de crise, ça ne nous change pas beaucoup, hein, tout le temps des périodes de crise, quoi qu'on fasse, puisque le peuple d'Israël vient de commettre un péché abominable en construisant le veau d'or, en adorant le veau d'or à la place du Dieu Tout-Puissant. Moïse est en colère, il a cassé les tables de la loi, et finalement, il remonte sur la montagne pour s'entretenir avec Dieu, avec le projet de retrouver de nouvelles tables de la loi, de refaire de nouvelles tables de la loi. Alors, nous sommes là maintenant au verset 4 du chapitre 34. Moïse tailla des tables de pierre comme les premières, se leva de bon matin, et comme le Seigneur le lui avait ordonné, monta sur la montagne de Sinaï, ayant pris à la main les deux tables de pierre. Le Seigneur descendit dans la nuée, se tint là avec lui, et Moïse proclama le nom de Seigneur. Seigneur, c'est-à-dire l'Éternel, en hébreu, un Yahvé. Le nom au-dessus de tout nom. Le Seigneur passa devant lui et proclama « le Seigneur, l'Éternel, l'Éternel, Yahvé, Yahvé, Dieu miséricordieux et bienveillant, lent à la colère, plein de fidélité et de loyauté, qui reste fidèle à des milliers de générations, qui supporte la faute, la révolte et le péché, mais sans rien laisser passer, qui poursuit la faute des pères chez les fils et les petits-fils, sur 3 et 4 générations. » Aussitôt, Moïse s'agenouilla à terre et se prosterna. Et il dit, « Si vraiment j'ai trouvé grâce à tes yeux, ô Seigneur, que le Seigneur marche au milieu de nous, c'est un peuple à la nuque raide que celui-ci. Mais tu pardonneras notre faute et notre péché, et tu feras de nous ton héritage. Amen. Béni sois-tu, Seigneur, pour ta parole. » Voilà, donc je vous l'ai dit, l'atmosphère est plutôt tendue. Le peuple de Dieu a gravement péché devant l'Éternel en se fabriquant une idole sous la forme d'un veau d'or, déchaînant la colère du Seigneur, puis celle de Moïse. Mais Dieu accepte de reconsidérer les choses et de reconsidérer son alliance. Vous savez que Paul dira bien plus tard, si nous lui sommes infidèles, lui, il demeure fidèle. Dieu accepte de tendre sa main, comme Moïse aussi le lui a demandé. Une étonnante relation de familiarité s'est instaurée entre Dieu et le prophète. Absolument unique dans l'Ancien Testament. Enfin, on trouve ça avec Abraham, on trouve ça un peu avec Élie, mais c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. On nous dit, au chapitre 33 de l'Exode, donc juste avant, le Seigneur parlait à Moïse face à face, comme on se parle d'homme à homme. Moïse va même bénéficier ici d'une révélation extraordinaire. Ce sera juste dans les versets qui suivent le passage que je vous ai lu. Pour lui, pour Moïse, l'Éternel accepte de se montrer. Oh. Tu te tiendras sur le rocher, dit l'Éternel. Alors quand passera ma gloire, je te mettrai dans le creux du rocher, et de ma main, je t'abriterai tant que je passerai. Puis j'écarterai ma main et tu me verras de dos. Mais ma face, on ne peut la voir. Et ce récit nous parle de la grandeur inaccessible de Dieu, mais aussi, en même temps que de sa grandeur inaccessible, de sa proximité, de son désir d'accompagner son peuple. Il préfigure sa révélation en Christ, bien sûr. Christ, élevé dans la gloire du Père, mais toujours présent au milieu de nous par son Esprit. Alors voyons déjà ce qu'il en est de ce mystère de Dieu. L'épisode du veau d'or a montré que les Hébreux éprouvaient le besoin de se représenter Dieu, de s'en faire une image concrète. Ça ne vous arrive pas, vous, d'avoir besoin de vous représenter Dieu? Un petit peu une idée, d'essayer d'expliquer qui est Dieu. Alors Moïse a de la chance, lui, parce qu'il a la chance de pouvoir s'approcher de l'Éternel, mais ce n'est pas donné à tout le monde. Et pour lui, pour Moïse, ce n'est pas facile d'être le prophète d'un Dieu sans visage, surtout que c'est le seul parmi tous les dieux de l'Antiquité, être le prophète d'un Dieu sans visage, alors que tous les peuples alentour ont leurs idoles de bois ou de pierre, c'est tellement plus simple. Moïse aurait bien besoin, lui aussi, de quelques précisions sur son Seigneur. Alors il lui dit, « Mais fais-moi donc voir ta gloire. » Dieu accepte donc de se dévoiler, mais tout en restant caché, tout en sauvegardant son mystère. « Tu ne peux pas voir ma face, car l'homme ne saurait me voir et vivre. » Le mystère de Dieu est particulièrement ressenti et en même temps rejeté dans le monde où nous vivons. À l'époque de Moïse et dans l'Antiquité, même les païens avaient une certaine idée de la divinité. Les athées étaient extrêmement rares dans l'Antiquité. Et jusqu'au temps moderne, l'athéisme est resté quelque chose de rare. Quasiment tout le monde, on va dire, peut-être jusqu'au XVIIIe siècle, en tout cas dans nos pays occidentaux, quasiment tout le monde pratiquait une religion, quelque chose qui ressemblait à une foi en Dieu. Aujourd'hui, parler de Dieu, ça devient étrange, presque indécent, ça ne se fait pas. Oh là là, vous commencez à parler de Dieu dans un repas, au boulot, oh là là, vite on passe à autre chose. Les gens s'enferment dans un rationalisme qui n'est en fait pas aussi rationnel qu'ils le prétendent d'ailleurs, ou bien alors ils se complaisent dans l'ignorance et le mépris du fait religieux, surtout, semble-t-il, en tout cas dans nos pays, quand il s'agit du christianisme. Alors vous voyez que ce vieux texte du livre de l'Exode rejoint nos préoccupations, nos questions, nos relations quotidiennes. Alors oui, oui, frères et sœurs, la Bible l'affirme sans réserve. Dieu est un mystère. Et c'est bien normal. Dieu est un mystère et c'est absolument normal. Dans un monde créé, limité, malade du péché, on ne saurait le voir ni mettre la main sur lui. Nous ne sommes que des créatures et en plus des créatures pécheresses. Dieu ne peut qu'être un mystère pour nous. Et bien sûr, en conséquence, les idoles ne peuvent être que des mensonges. Les idoles ne sont que des mensonges. Le vrai Dieu ne saurait qu'être au-delà, bien au-delà de nos sens, de notre imagination, de notre intelligence. C'est tout à fait normal. Nous ne pouvons connaître Dieu qu'à une seule condition, c'est que ce soit lui qui se révèle. Nous ne pouvons connaître Dieu que si c'est lui-même qui se révèle. Alors ici, dans le livre de l'Exode, Moïse reçoit le privilège d'une révélation exceptionnelle de Dieu. Et soyons reconnaissants, parce que ce privilège est devenu le nôtre. D'une part, parce que la Bible est à notre disposition et nous fait partager l'expérience de Moïse, des prophètes et plus tard, des apôtres, mais surtout, frères et sœurs, surtout parce que l'Éternel a choisi, c'est lui qui a choisi, de prendre visage d'homme. Il a choisi de prendre visage d'homme. Il s'est fait connaître à nous en son Fils Jésus-Christ. Extraordinaire. Bien plus extraordinaire que l'expérience de Moïse. C'est Dieu lui-même qui vient en notre chair. En Jésus, Jésus que les prophètes appellent l'Emmanuel, Dieu avec nous, pas loin de nous, Dieu avec nous. En Jésus, la parole a été faite chair, nous dit l'évangile de Jean, elle a habité parmi nous. Le texte grec dit même, en fait, il a dressé sa tente parmi nous, c'est très joli, hein, comme autrefois, quand il cheminait avec le peuple d'Israël. Alors, quelle est-elle, cette révélation de Dieu? Dans notre texte du livre de l'Exode, la familiarité de Moïse avec l'Éternel passe de la relation à la révélation. C'est la gloire du Seigneur, nous dit le texte, qui se manifeste au prophète abrité dans le creux du rocher. La gloire, en hébreu, c'est le même mot qui veut dire le poids. Ce qui a du poids, peut-être qu'en arabe, c'est du même genre, hein. Voilà, kabod, la grandeur de sa puissance. La gloire du Seigneur se révèle par l'importance de son influence sur nos vies. Si vous voulez refléter la gloire de Dieu, donnez toujours plus d'importance au Seigneur dans votre vie, d'une certaine manière. Encore une fois, il ne s'agit bien sûr pas de mettre la main sur Dieu, mais de le voir de dos, de goûter les fruits de son existence, de discerner les signes de sa présence au cœur du monde. La révélation que Dieu donne de lui-même est bien différente de ce que Moïse pouvait imaginer. Elle dépasse tout ce qu'il pouvait espérer. Moïse était monté sur le mont Sinaï avec ses deux tables sous le bras, hein, ces deux grosses pierres, là, ça peut être lourd d'ailleurs, hein, muni de ces deux tables de pierre pour recevoir une nouvelle fois la loi du Seigneur. Mais l'Éternel, qu'est-ce que fait l'Éternel ? Eh bien, il ne commence pas par écrire les mêmes paroles que sur les premières tables que Moïse avait brisées dans sa colère. Non, l'Éternel se révèle d'abord comme le Dieu qui aime et qui pardonne. Le Dieu qui aime et qui pardonne. Avant d'exiger l'amour, Dieu révèle qu'il est amour. On peut dire les choses comme ça. Avant d'exiger l'amour, il révèle qu'il est amour. Alors il proclame son nom. Il passa devant Moïse et cria « Yahvé, Yahvé ! » Il se nomme, hein, avec ses quatre lettres sacrées. En français, Y, H, V, H. Hein, le tétragramme, les quatre lettres sacrées qui sont répétées deux fois comme un appel à l'adoration. Ce nom que les Juifs n'osaient pas prononcer tellement il était sacré. Les quatre lettres. Quatre lettres qui révèlent le mystère de sa présence, d'une présence éternelle. Yahvé, c'est une forme primitive du verbe être. Je dis souvent, mais ce n'est pas tout à fait juste, mais c'est pour simplifier un peu les choses. C'est une manière de conjuguer le verbe être à la fois au passé, au présent et au futur. Essayez en français. Pas facile, hein ? Et c'est pour ça que la Bible nous aide en disant, par exemple, dans l'Apocalypse, on a une traduction intéressante, celui qui est, qui était et qui vient. Voilà. Celui qui est, qui était et qui vient. Et en français, on a traduit dans nos Bibles, en tout cas dans nos anciennes traductions protestantes, comme la traduction Second, l'Éternel. C'est pas mal trouvé. C'est pas mal trouvé. Les Allemands nous envient cela. Parce que dans leur Bible, ils n'ont pas trouvé l'équivalent. C'est Der Herr, le Seigneur. Voilà. L'Éternel. Et ce même nom, l'Ancien Testament, quand il a été traduit en grec, l'a traduit par un autre mot, le Seigneur. Curios, le Seigneur. Et c'est ce titre que les premiers chrétiens attribueront sans hésiter à Jésus. Oh là là, quelle audace! Attribuer à Jésus le nom même de l'Éternel, le Seigneur. Quand on lit le Nouveau Testament et notamment les épîtres de Paul, et quand Paul parle de Jésus en disant « le Seigneur » de la part du juif Paul qui était pharisien, il faut réaliser la révolution que c'était dans la pensée religieuse, spirituelle de ces gens. Alors une telle éternité de présence, celui qui est, qui était et qui vient, l'Éternel, une telle éternité de présence aurait pu apparaître effrayante, écrasante, hein, évidemment. Mais Dieu se révèle ici comme celui qui accueille et celui qui chérit. Il est, alors il y a plusieurs mots qui sont employés, vous les avez entendus dans la lecture, vous les avez vus dans vos Bibles, c'est peut-être pas exactement traduit de la même manière d'une Bible à l'autre, mais quand même, ces mots sont chargés de sens que l'on retrouve partout. Il est le Dieu miséricordieux. Celui dont la tendresse est comparable aux entrailles d'une mère pour son enfant. Le terme fait allusion aux entrailles. Vous rendez compte ? Celui dont la tendresse est comparable aux entrailles d'une mère pour son enfant. Il est le Dieu bienveillant. Bienveillant, c'est-à-dire celui qui fait grâce, qui montre son amour même aux pécheurs, surtout aux pécheurs. Enfin, ça dans le Nouveau Testament. On nous dit aussi qu'il est plein de fidélité, la fidélité. Il est rempli d'une bonté, c'est-à-dire d'un amour qui rappelle celui d'un mari pour son épouse, une mère pour son enfant, un mari pour son épouse. Vous voyez toutes ces connotations. Il est plein de loyauté. Ça veut dire qu'il est la vérité, qu'il est l'amen, dit l'Apocalypse. C'est le même mot en hébreu. Il est celui sur lequel nous pouvons fonder toute notre assurance. Toute notre assurance. Et par la suite, la Bible précisera tous ces attributs de Dieu. Bien sûr, elle va développer tout cela. Et ils vont se révéler en plénitude dans la personne de Jésus, bien entendu. Mais ici, ces attributs de Dieu sont étalés d'emblée devant un Moïse émerveillé, scotché. Un Moïse émerveillé. Ils affirment que Dieu éprouve la tendresse d'un père ou d'une mère pour son peuple rebelle. Que Dieu est prêt à pardonner, à sauver, à ne jamais l'abandonner parce qu'il l'aime et que son amour n'a pas de fin. Paul écrira, en contemplant la révélation de cet amour dans le Christ Jésus, là où le péché a proliféré, la grâce a surabondé. C'est exactement ce qui se passe ici. On ne saurait trouver d'affirmation plus forte de la bonté de Dieu. Oui, frères et sœurs, dans ce récit de Moïse en présence de l'Éternel, c'est bien le Père de Jésus-Christ qui se révèle. Et plus étonnant encore, cette révélation prend place juste après l'infâme idolâtrie d'Israël, après le péché du veau d'or, juste après ce péché qui lui aurait mérité, dit la Bible, l'extermination. La gloire de Dieu se révèle dans l'amour inconditionnel, dans le pardon. Et nous savons bien sûr, en tant que chrétiens, que Jésus révélera sur la croix, dans sa plénitude, l'amour de ce Dieu qui ne se lasse pas de pardonner nos péchés, heureusement pour nous. Et parce qu'il est plein d'amour, eh bien, précisément, Dieu ne saurait supporter la haine. Il ne saurait supporter la révolte, le péché. Tout ce qui sépare de lui, tout ce qui divise ses enfants. On en parlait tout à l'heure de ce qui peut diviser les églises. Dieu peut donc se mettre en colère. Mais ne brandissons pas trop vite la colère de Dieu. Notre texte, avec bien d'autres passages de la Bible, précise que Dieu est lent à la colère. Il est lent à la colère. Il attend longtemps avant de se fâcher. Le Nouveau Testament dira, notamment dans la deuxième épître de Pierre, au chapitre 3, le Nouveau Testament dira que Dieu fait preuve de patience envers nous, ne voulant pas que quelques-uns périssent, mais que tous parviennent à la conversion. Il dit aussi que la longue patience du Seigneur, c'est notre salut. Son amour et son pardon sont sans limite. Notre texte de l'Exode, au verset 7, Exode 34, 7, nous dit qu'il reste fidèle à des milliers de générations. Et pourtant, il ne laisse rien passer. L'Exode n'hésite pas à affirmer aussi, toujours à ce verset 7, que l'Éternel poursuit la faute des pères chez les fils et les petits-fils sur 3 et 4 générations. Ce rappel de la loi, c'est un rappel des 10 commandements, en fait, parce que cette phrase est dans le deuxième commandement. Ce rappel de la loi semble un peu faire tâche, on n'aime pas trop l'entendre, hein, avouez. Ça paraît contradictoire à nos esprits modernes. D'autant plus qu'ailleurs, dans la Bible, les prophètes déclarent que chacun mourra pour son propre péché. Je crois que la parole de Dieu évoque ici une loi de solidarité qui préside à l'histoire du monde, en fait. Dans la Bible, en général, comment le méchant est-il puni? Eh bien, en général, largement généralement, le châtiment du péché vient du péché lui-même. Le pécheur se fait du mal à lui-même en péchant, tout simplement. Et Dieu laisse le pécheur subir les conséquences de ce qu'il a fait. Qui creuse un trou, par exemple, dit le psaume 7, qui creuse un trou tombe dans la fosse qu'il a faite. Son crime lui revient sur sa tête. La désobéissance d'une génération enracine profondément le péché, l'impiété. Et il faut plusieurs générations pour en guérir. Les enfants subissent l'influence des fautes de leurs parents. Et ça, nous le constatons encore aujourd'hui. La violence dans une famille engendre la violence, bien souvent. La débauche engendre la débauche. La drogue engendre la drogue. Le mal engendre, ça toujours, le malheur. Et le péché est contagieux, bien plus contagieux que le variant Omicron de notre petit virus, et bien plus dangereux, bien plus dangereux. Le péché est contagieux, il suffit d'ouvrir les yeux sur notre société pour s'en persuader. Alors l'Éternel nous met en garde, et heureusement qu'il nous met en garde. Nos fautes ont des conséquences, et pas seulement des conséquences personnelles. Elles se répercutent sur nos familles, sur notre peuple, sur notre monde, sur notre environnement, n'est-ce pas, Toby ? Si Dieu ne peut rien laisser passer, c'est justement parce que nos péchés possèdent un terrible pouvoir de destruction et qu'il veut nous en délivrer. Voilà pourquoi Dieu ne peut rien laisser passer. Il veut précisément nous délivrer de cela. Et sa loi, la loi qu'il donne à son peuple, sera donc aussi l'expression de sa fidélité, de son amour. Alors venons-en à cette loi de Dieu. On le remarque dans le passage que je vous ai lu. Ce n'est qu'après avoir révélé l'étendue de son amour que le Seigneur va pouvoir donner ses commandements. Sa loi ne sera pas observée pour acquérir sa faveur, il vient de dire qu'elle était acquise. Mais elle en sera l'expression. Elle sera l'expression de la faveur de Dieu. Le psaume 119 a cette magnifique phrase, 119-29. Vous savez, le psaume 119, c'est le plus long de la Bible. Hein. Donc, 110, quand je dis le psaume 119, c'est bien que je précise le verset quand même. 119-29 parle de la grâce de ta loi. La loi de Dieu est une grâce. Je n'obéirai pas au Seigneur pour être aimé de lui, mais c'est parce qu'il m'aime qu'il me commande d'obéir, et c'est parce qu'il m'aime que je veux lui obéir, parce que je sais que c'est pour moi, que c'est pour mon bien et le bien de ce que j'aime. La loi est donnée pour devenir aussi le signe de l'alliance, l'expression de l'appartenance d'Israël à Dieu. Elle est le chemin que l'Éternel propose à Israël pour qu'il devienne, selon la vocation qu'il lui a adressée, un peuple saint, un peuple qui lui appartienne et qui fasse briller sa lumière, on l'a dit tout à l'heure, au milieu des nations. Voir Dieu de dos, peut-être que c'est aussi cela. Vous voyez, l'Épître aux Hébreux parlait d'ouragans, de phénomènes extraordinaires dans ce chapitre qu'on a lu tout à l'heure. Mais ici, il n'y a pas d'ouragan, ni de tremblement de terre pour manifester la puissance de Dieu. Mais c'est un Dieu qui passe, qui parle, qui se lie avec son peuple en lui proposant un chemin de vie. Ce chemin sera d'ailleurs celui que le Seigneur empruntera lui aussi pour se révéler au monde. Ce sera le chemin que Jésus lui-même empruntera en plénitude. Soyez saints, car je suis saint, moi le Seigneur votre Dieu. Finalement, on ne peut voir Dieu que par l'histoire qu'il écrit avec les hommes. On ne peut voir Dieu que par l'histoire qu'il écrit avec nous. La Bible n'entre pas dans de grands raisonnements philosophiques sur l'existence de Dieu. Mais la Bible ouvre nos yeux pour nous rendre capables de le reconnaître par la foi. Elle ouvre nos yeux pour nous rendre capables de le reconnaître par la foi. La Bible ne donne pas des preuves de l'existence de Dieu, mais elle donne des signes de sa présence, et des signes très précieux. Quand Moïse est descendu du mont Sinaï, on voit ça un petit peu plus loin, au verset 29 de ce chapitre 34, quand Moïse est descendu du mont Sinaï en tenant à la main les deux tables de la charte, nous dit la Bible, la peau de son visage était devenue rayonnante en parlant avec le Seigneur, au point qu'il est obligé de mettre un masque lui aussi. Enfin, non, un voile. Peut-être que nous sommes tellement rayonnants que nous avons besoin d'avoir le masque finalement. C'est peut-être pour ça, si seulement. Si seulement. Voilà, l'écoute de Dieu a transformé Moïse. L'écoute de Dieu l'a transfiguré, le rendant lui-même porteur de la lumière de Dieu. Lui-même, Moïse, devenait dans sa personne porteur de la lumière de Dieu. Nous croyons que Jésus, Abdel nous l'a redit tout à l'heure, nous croyons que Jésus est la lumière du monde. Sa transfiguration relatée dans les évangiles, dont Abdel a parlé aussi, quand son visage resplendit comme le soleil et que ses vêtements devinrent blancs comme la lumière, a finalement révélé à ses disciples ce que Jésus restera toujours, c'est-à-dire le visage du Père, c'est-à-dire la présence rayonnante de Dieu en ce monde. Jésus disait « Qui m'a vu a vu le Père ». Jésus nous demande maintenant de devenir à notre tour ses révélateurs. Waouh ! Nous devons devenir à notre tour les signes de sa présence, en portant sa parole et en portant les gestes de sa tendresse. « Qui vous écoute, m'écoute », promettait Jésus. Et en recevant son esprit, nous devenons, nous dit la Bible dans le livre des Actes, nous devenons ses témoins jusqu'aux extrémités de la terre, même au Creusot. Résultat de ce récit du livre de l'Exode, Moïse s'agenouilla et se prosterna. Moïse s'agenouilla et se prosterna. Plus tard, les apôtres feront la même chose devant Jésus. Et Moïse reconnaît la majesté de Dieu. Et pourtant, il ose encore lui demander quelque chose. Marche au milieu de nous, pardonne notre faute. Marche au milieu de nous, pardonne notre faute. C'est exactement ce que Jésus fait pour nous. Jésus est l'exaucement plaigné de cette prière de Moïse. En Jésus, le Tout-Puissant est venu vivre et mourir au milieu de nous. Il a marché au milieu de nous et il continue à le faire. Et il est venu le faire pour pardonner nos péchés et mieux encore, pour nous conduire à la vie éternelle. Pour nous conduire même dès maintenant dans sa vie éternelle. Et pourtant, frères et sœurs, c'est lui, Jésus, qui s'est agenouillé devant ses disciples. C'est lui qui s'est agenouillé devant ses disciples. Et nous ne voyons que son dos courbé, tandis qu'il lave les pieds de ses amis étonnés. Je fais allusion à Jean 13, l'épisode où Jésus lave les pieds de ses disciples. C'est lui qui s'agenouille devant nous et nous le voyons de dos en train de laver les pieds. Comment le dire au monde? Comment dire cela au monde? Jésus nous dit, toujours en Jean 13, « C'est un exemple que je vous ai donné. Ce que j'ai fait pour vous, faites-le vous aussi. Vous serez heureux si vous le mettez en pratique. » Et Jésus ajoute, à ceci, tous vous reconnaîtront pour mes disciples à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Amen. Nous prions. Seigneur, ce matin, nous sommes un peu comme Moïse en ta présence. Nous sommes aussi comme tes disciples, complètement bouleversés de te voir agenouillé devant eux pour les purifier, pour leur laver les pieds, pour leur dire qu'ils sont purifiés, qu'ils sont pardonnés et qu'ils peuvent maintenant vivre de ta vie. Seigneur, nous sommes subjugués par l'immense mystère de ta grandeur, de ta majesté, de ta gloire, et en même temps l'immense mystère de ta présence, si proche de nous, si aimante, toujours prête à nous pardonner, à nous accompagner sur le chemin de la vie et même sur le chemin de la vie éternelle, en Jésus-Christ, qui a tout donné pour nous sauver. Alors ce matin, Seigneur, ensemble, nous voulons te redire notre adoration. Nous voulons te redire que nous t'aimons tellement imparfaitement, bien sûr. Alors nous voulons te redire aussi combien nous avons besoin de ta grâce et de ton pardon, et combien nous avons besoin que tu sois avec nous chaque jour, que ta puissance veuille bien s'accomplir dans nos faiblesses. Seigneur, accompagne-nous toujours sur le chemin de la vie. Accompagne ceux parmi nos proches qui se sentent peut-être loin de toi en ce moment, abandonnés, souffrants. Accompagne notre société désespérée, angoissée, en crise, pour différentes raisons, pas seulement sanitaires. Seigneur, oui, que ton Église, humblement mais fidèlement, puisse porter encore aujourd'hui ta lumière dans le monde. Nous te prions au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Frère. Amen.
Amen. Amen.